Dominique Chauffat.
Alex Simonet va devoir s'habituer à vivre avec son nouveau statut de vainqueur en Coupe du Monde de ski alpin. C'est difficile de trouver les mots, je suis simplement heureux, parole du Fribourgeois. Après son triomphe aujourd'hui à Bormio en Italie, Alex Simonet a devancé Franjo von Almen pour un magnifique doublé suisse. Marco Dermatt termine cinquième devant Justin Murisier. Et on peut se rassurer pour le descendeur français Cyprien Sarrazin. Il est réveillé et conscient après son opération suite à sa chute d'hier. Le skieur reste en observation, son état est stable. Le dernier grand hôpital du nord de Gaza est dorénavant vide, annonce faite par l'Organisation mondiale de la santé ce soir. L'établissement a été mis hors service par une attaque israélienne, une attaque visant un centre de commandement du Hamas selon l'armée israélienne. Les 15 patients critiques ainsi que leurs soignants ont tous été transférés dans un autre hôpital, un site en manque d'équipement pour prodiguer des soins adéquats selon l'OMS. Des milliers de manifestants pro-européens se sont rassemblés aujourd'hui à Tbilissi en Géorgie pour protester contre le gouvernement. Nous sommes à la veille de l'investiture du nouveau président de ce pays du Caucase et sa nomination est contestée par l'opposition. Les protestataires ont exigé la libération des personnes détenues lors des manifestations précédentes et la tenue de nouvelles élections. Le parti au pouvoir qui en est sorti vainqueur, le rêve géorgien, dément toute fraude aux législatives. Voilà une nouvelle affaire des signatures falsifiées dans notre pays. La chancellerie fédérale a découvert de nombreuses irrégularités dans la collecte de signatures pour l'initiative populaire Oui à la sécurité de l'approvisionnement médical. C'est une révélation des journaux alémaniques de Tamedia. La majorité des 3600 signatures non valables provient du canton de Genève. Le texte demande à la Confédération d'encourager la recherche, le développement et la fabrication de médicaments importants en Suisse et d'en garantir l'accès. Une installation de télécabine de Vézona en Valais est tombée en panne aujourd'hui. Quelques dizaines de passagers ont dû être évacués, certains par hélicoptère, mais personne n'a été blessé. C'est ce qu'indiquent les remontées mécaniques de la station. L'accès aux pistes de fond sera gratuit jeudi prochain dans toute la Suisse romande. Cette opération a pour objectif de promouvoir cette pratique sportive. Des initiations seront proposées aux novices de la glisse. Le réseau romand comprend plus de 1500 km de pistes. Et puisqu'on parle de ski de fond, les Suisses ont brillé à Dobiaco en ouverture du tour de ski avec deux podiums dans les sprints en style classique. Nadine Fendrich a terminé au troisième rang, de même que Yannick Ribly chez les hommes. Météo, ces prochains jours vont se ressembler jusqu'à mercredi avec du brouillard parfois givrant au-dessous de 700 mètres et des bancs de stratus selon les régions. Tout ça devrait se dissiper largement dans l'après-midi. Il fera jusqu'à moins 1 à 4 degrés selon l'ensoleillement.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info. Cette année, vous avez été plus d'1 300 000 chaque semaine à partager des émotions avec la RTS, à vous informer avec nous, à vous réveiller chaque matin ou vous endormir le soir. Vous avez été nombreux à vous étonner, à vibrer, à rêver, à rire avec nous. Cette année, vous avez été plus d'1 300 000 chaque semaine à nous faire confiance. Alors merci. Merci parce que nous souhaitons pour 2025 vivre encore ces moments-là avec vous. La RTS vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Sport Première. Patrick Delletreau.
Bonsoir, c'est un Sport Première spécial que nous vous proposons ce soir avec Mathias Bonneman en régie. Nous sommes le 28 décembre, ça ne vous a pas échappé, c'est le dernier samedi de l'année, ça ne vous a pas échappé non plus, donc le dernier Sport Première de l'année. Une année 2024 particulièrement riche en événements sportifs qui nous a laissé des souvenirs plein la tête, des souvenirs que toute la rubrique des Sports Radio va vous faire partager durant les 4 prochaines heures. À vos côtés, Stéphane Trisconi, bonsoir.
Bonsoir Patrick, vous avez raison, quelle année que cette année 2024 avec ces deux événements majeurs qu'ont été l'Euro de football en Allemagne et les Jeux Olympiques de Paris, mais pas que, on a eu le droit à 32 sports premières spéciaux cette année, 78 heures de direct en dehors de notre case habituelle du samedi soir, c'est un record et cela valait bien 4 heures de rétro, les deux premières consacrées aux Jeux Olympiques de Paris et les deux autres à tous les autres événements de ces 365 derniers jours.
J'ai changé de maison, j'ai même changé de vie. Mon cœur s'est rempli des vibrations de la Seine. Je me suis essoufflée de lumière et de bruit. Et j'ai beaucoup pleuré de joie, pas que de peine. J'ai découvert la peur de ne pas être assez bien. Dans le regard des autres, puis aussi dans le mien. Je me suis sentie seule, parfois j'ai perdu le sens. J'ai chanté la lumière, j'ai chanté le silence.
Je ne compte pas les nuits où j'ai parlé aux anges. Comme j'ai aimé, comme j'ai ri et comme j'ai été heureuse. Faut 365 jours pour un tour de soleil. Et moi pendant ce temps j'ai fait ce que j'ai pu. Pour le reste j'ai le temps, pour le reste j'apprendrai. 365 jours pour j'espère des années.
J'ai appris à me rire des codes et des usages. J'ai perdu des amis, laissé fuir leur visage. J'ai appris l'importance de respecter mes lignes. Je me suis fait confiance et me suis sentie digne. J'ai navigué à vue dans une mer cruelle. J'ai vraiment fait de mon mieux pour me rester fidèle. Oui, j'ai fait des erreurs, pleines de convictions. Mais je préfère le risque à la même chanson.
Car moi, tout ce que je le fais de tout mon être. J'ouvre mes bras à l'après. Pour tout ce qui m'attend, je suis prête. Faut 365 jours pour un tour de soleil. Et moi, pendant ce temps, j'ai fait ce que j'ai pu.
365, Barbara Pravi, c'est le clin d'œil de notre programmateur musical Vili Désolu pour lancer cette rétro 2024 avec vous, Stéphane Trisconi. On commence avec les Jeux Olympiques de Paris qui nous ont offert un spectacle magique du 26 juillet au 11 août.
On va découvrir ce soir quels événements ont procuré la chair de poule à la rédaction des sports, quelles images nos journalistes garderont de ces Jeux, qui sont les sportives et les sportifs qui ont ému Caroline Raymond, Grégoire Pérou, Jérôme Jeannin, Grégoire Ogier, Bernard Alleman, Alain Thévaux, Joël Robert et vous-même, Patrick Deletro. On commence d'ailleurs avec vous, Patrick, parce que vous avez choisi peut-être le personnage finalement de ces Jeux Olympiques de Paris 2024, le président du comité d'organisation, Tony Estanguet. Expliquez-nous ce choix.
Parce qu'un sportif à la tête d'une telle organisation, c'est assez rare, c'est même unique. J'ai choisi pour cette organisation, pour le fait que Paris a compris qu'un athlète à la tête des Jeux ne pouvait être que bénéfique pour les athlètes eux-mêmes, pour le fait d'avoir tenu bon, malgré toutes les critiques, malgré tous les problèmes qu'il y a eu avant, et les critiques, j'en étais aussi. Il fallait un athlète pour ça, pour tenir, pour repartir, pour toute la résilience, pour prendre des coups et repartir. Pour avoir réussi aussi à amener les Jeux dans des endroits absolument extraordinaires, absolument mythiques, pour avoir osé une cérémonie d'ouverture complètement dingue, trop longue, mais dingue. Et ça, pour tout ça, je voulais rendre honneur à Tony Estanguet, l'athlète des athlètes des Jeux Olympiques de Paris, à mon avis.
Bon, c'est vrai que ça n'était pas gagné d'avance pour lui, parce qu'on se souvient des critiques, même le jour J, avant la cérémonie, jusqu'à la cérémonie, j'ai envie de dire, ça pleuvait de tous les côtés.
Ah, franchement, on était absolument certains, et je dis « on » parce qu'on était très nombreux, qu'il allait avoir des problèmes. Que ce soit des problèmes de transport, des problèmes de sécurité ou d'organisation tout court. Bah, vu de l'extérieur, il n'y en a pas eu. Moi, je les ai vus de l'extérieur, ces jeux, ça faisait longtemps. Et franchement, voilà, tout s'est bien déroulé. Et tout ce qu'on a pu voir, ce qu'on a pu entendre, ce qu'on a pu lire, tout s'est bien passé. Ça a été des jeux magiques. Et ça, je pense qu'on le doit quand même beaucoup à toute une équipe, mais une équipe menée par un athlète, par Tony Estanguet.
Vous étiez sur place, vous, Caroline Raymond. À quel moment vous vous êtes dit, ouais, il se passe quelque chose de magique à Paris?
Alors, je vais en revenir après tout à l'heure quand je vous parlerai de rugby, mais je pense sur la cérémonie d'ouverture quand même, il se passait quand même quelque chose parce qu'on a compris, on est avec Jérôme sur place, il pleuvait, il faisait un temps absolument terrible, mais il y avait quand même du monde sur les quais de Seine et on a l'impression que les gens avaient envie de faire la fête. Donc à ce moment-là, je pense que on a compris qu'il allait se passer quelque chose. À ce moment-là, il manquait la petite médaille. Il faut encore la médaille, le titre olympique pour la France. Et puis après, on sentait que ça allait pouvoir se... Oui, ça allait pouvoir partir. Le bouchon de champagne allait péter.
C'est parti pour la France. C'est vrai qu'on dit, voilà, il fallait la médaille pour la France parce que la France s'est réunifiée autour de ces Jeux. Mais ça a été au-delà de ça. Franchement, vu de l'extérieur, ce sont des Jeux exceptionnels où le monde a regardé la France qui était très critiquée et qui, tout à coup, a fait quelque chose d'exceptionnel. Et ça n'a pas tourné qu'autour de la France par la France. C'est ça qui a été aussi assez extraordinaire dans ces Jeux.
Alors moi aussi, j'étais de l'extérieur. Vous étiez dedans, Jérôme Jeannin. Vous l'avez senti, ça, que le monde entier était en train d'être fasciné par Paris?
Alors, c'est difficile à dire, évidemment, quand vous êtes dans l'épicentre du phénomène, mais c'est vrai que cette cérémonie, ça a été un vrai turning point. Il y a quelque chose qui a changé. Les Français sont redevenus fiers d'être Français, tout d'un coup. À part quelques-uns, ça a grogné aussi, évidemment, après cette cérémonie. Et puis, Patrick disait quelque chose d'intéressant, c'est que il fallait être un athlète pour faire ça, et c'est vrai que on se rend pas compte peut-être de ce qu'il a fallu endurer. D'ailleurs, les cheveux de Tanguy Estanguet sont devenus blancs, hein, si je me trompe pas. J'ai pas vu les photos d'avant, mais c'est assez marquant des fois comment les cheveux des politiciens ou des personnes qui ont de grosses responsabilités, on se souvient d'Obama, etc., peuvent tout d'un coup.
C'est un travail aussi. Hein, il a pris un peu d'âge depuis.
Ouais, mais je sais pas. Il fallait faire une étude sur les photographies d'Estanguet pendant cette période pour voir qu'il a donné de sa personne. Et puis d'ailleurs, je crois que Los Angeles s'y est pas trompé, parce que je crois qu'il a été engagé dans le comité pour la coordination des prochains Jeux Olympiques à Los Angeles. Donc ça aussi, c'est une forme de salutation au travail accompli.
Alors, il y a eu la cérémonie d'ouverture et puis ensuite les premières médailles. Et vous avez choisi Caroline Raymond dans la rubrique sportif des Jeux Olympiques, un Français qui a fait vraiment un tabac pendant ces Jeux, c'est Léon Marchand.
Ouais, pour moi, c'est vraiment la personnalité des Jeux, parce que déjà, il a ses quatre médailles d'or, il a réalisé des exploits, hein, gagné deux médailles le même soir dans deux nages différentes. Personne ne l'avait même tenté, même pas Michael Phelps, pourtant, qui est la grande légende de la natation. Moi, ce qui m'a marqué, j'ai eu la chance d'être dans le bassin olympique pendant presque, je crois que j'ai vécu trois de ces quatre médailles, et c'était absolument extraordinaire. Et il y avait certainement, je pense, le plus beau moment, c'est peut-être pas le soir où il gagne deux médailles, c'est la première finale, parce que on sentait la tension, les gens avaient envie de venir là, de soutenir Léon Marchand. Et à un moment donné, il y a une cérémonie qui se passe, hein, juste avant la prise d'antenne, les lumières se sont éteintes, et là, il y a une Marseillaise qui a retenti dans cette piscine olympique. Ça nous a mis, mais vraiment, les poils, c'était un truc complètement de fou. Et là, il y a cette Léon Mania qui s'est échappée du bassin olympique, et puis conquis toute la France, voire tout le monde. Et moi, ce qui m'impressionne, c'est que Léon Marchand, c'est un jeune homme très introverti, qui a été placé aux États-Unis un peu par ses parents, parce qu'ils avaient peur justement que la pression médiatique, vous savez ce que les Français peuvent mettre comme pression sur leurs athlètes, ils l'ont mis aux États-Unis un peu pour le préserver. Et lui, au départ, se disait, mais moi je vais me mettre dans ma bulle, parce que sinon je vais pas réussir à vivre ces Jeux à Paris. Et puis au fait, il a compris plus tard, en arrivant au championnat de France un peu avant les JO, il parlait avec Manodou, et lui dit, mais non, il faut que tu vives ces événements, il faut que tu te nourrisses de ces émotions. Et j'admire cette façon qu'il a eu de changer complètement son mindset en se disant, bah, ok, je passe de ma bulle dans mon université américaine, je fais de l'informatique et puis je m'occupe de rien d'autre, à ce jeune homme, ou cet homme, disons, qu'il est devenu, qui vraiment a maîtrisé tout, les émotions. On a l'impression que ça l'a grandi, ça lui a permis de nager plus vite, enfin, qu'il a pas été impressionné. Moi, j'ai un souvenir d'une nageuse française qui pleurait sur les plots de départ, tellement l'ambiance était magique, mais ça peut vous mettre une pression aussi monstrueuse. Et moi, j'ai eu l'impression que, ouais, il s'est nourri de ça. Et puis, en même temps, quand on le voit à la cérémonie de clôture, super bien habillé dans le jardin des Tuileries, et puis c'est lui qui éteint la flamme olympique, on l'impression d'avoir vu un homme grandir, au fait. Moi, j'ai trouvé magnifique.
Ouais, il a mis le feu à la Défense Arena. Ça ne s'est pas passé qu'en natation. Jérôme Jeannin, vous n'avez pas choisi un sportif français, mais deux, les frères Lebrun, en tennis de table. Là aussi, il s'est passé quelque chose d'incroyable.
Oui, il y a eu un phénomène de rassemblement et un phénomène électrique, alors qu'on a eu avec Léo Marchand, qu'on a eu avec Teddy Riner, et puis qu'on a eu avec ses frères Lebrun. Tennis de table, c'est un sport qui est peu médiatisé. Deux athlètes au physique complètement normal. C'est pas Teddy Riner, c'est pas Antoine Dupont. Ça rend le sport accessible quelque part. Ce sont des blondinets avec de grosses lunettes qui ont 17 et 20 ans. Et il y a eu un phénomène d'identification du public qui s'est complètement retrouvé dans ces deux jeunes sportifs. Tout d'un coup, la halle où avaient lieu les compétitions du tournoi de tennis de table, qui était une halle industrielle en fait, une halle de foire qui a été transformée en terrain de sport qui pouvait accueillir 5000 spectateurs, étaient pleines, c'était l'endroit people où il fallait être. Aller voir les frères Lebrun à Paris, et c'est vrai que c'est assez réjouissant parce qu'il y a une sorte de fraîcheur, de spontanéité, un côté accessible comme ça qui a été mis en lumière par ces deux athlètes, avec des spectateurs qui venaient vraiment de toute la France, qui se sont rassemblés. Ça, c'était très beau à vivre aussi, cette communion des Français qui, quelques jours plus tôt, étaient en train de s'entre-déchirer pour des raisons politiques.
Et aujourd'hui, en Asie, tout le monde sait qui sont les frères Lebrun aussi.
Oui, alors ça aussi, ce sont des athlètes maintenant qui s'exportent et tout. Ce sont devenus deux icônes, comment est-ce qu'on dit, c'est les petits caractères là, qu'on a sur les téléphones portables.
Les emojis
du tennis de table.
Mais c'est fou parce qu'il y aura un grand tournoi de ping-pong, enfin de tennis de table, pardon, aussi à Montreux. J'ai vu sur le site internet qui disait aux gens, mais ne tardez pas à prendre vos billets parce qu'il y a une telle demande des Français pour voir les frères Lebrun que voilà. Et c'est ça qui est génial, c'est pas juste le temps du tournoi olympique, mais c'est vraiment un amour qui se perpétue là-bas en ce moment, ça continue, ça c'est assez sympa.
Par contre, je suis pas certain que ça rende le tennis de table accessible à tout le monde.
ils ont une sorte de normalité qui est assez sympa, je trouve. Ouais.
C'est vrai qu'ils ont apporté un vent de fraîcheur sur les JO, les pongistes français Félix et Alexis Lebrun.
Oui, d'autres artistes ont également apporté un vent de fraîcheur à ces Jeux Olympiques. Angèle, Phoenix et Kavinsky, notamment lorsqu'ils ont interprété Night Call lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques. C'était précisément le 11 août et c'était au Stade de France. Yeah. Angèle Phoenix et Kavinsky, Night Call, donc interprété lors de la cérémonie des clôture des Jeux Olympiques de Paris. Et on continue, Stéphane Trisconi, à découvrir les sportives et les sportifs des Jeux Olympiques choisis par les membres de la rubrique des sports.
Après Tony Estanguet, Léon Marchand et les frères Lebrun, voici enfin un athlète suisse. Votre choix, Alain Thévaux, s'est porté sur le cavalier jurassien Steve Guerda, médaillé de bronze du concours de saut en hippisme. C'était le 6 août 2024.
Oui, Steve Guerda, j'avais déjà eu la chance, on va dire, de le suivre à Londres lorsqu'il avait décroché la médaille d'or, le titre. Aussi la déception, les larmes à Rio. Et c'est vrai que c'est déjà un sportif, je trouve, une personne très attachante. Certes, vous allez me dire, vous retenez un sportif, il n'est pas champion olympique lors de cette édition. J'ai trouvé que... ça a été une très belle médaille d'argent. Lui-même a dit que cette médaille d'argent, ça valait une consécration olympique. Et c'est surtout l'homme vraiment humble qui est quand même assez timide, en retrait généralement, ne parle rarement de lui. Et là, sitôt sa médaille, il parlait en fait d'un certain mal-être. Ça veut dire du mal qu'il faisait à sa famille parce qu'il est très exigeant. Steve Guerda, il le veut toujours, il est perfectionniste, il donne le meilleur de lui-même. Et il consacre vraiment beaucoup de temps à ses chevaux, à son sport, à sa passion. Parfois, c'est au détriment de sa famille. Et en fait, il dédiait sa médaille d'argent qui valait, on l'a dit, une médaille d'or. Il l'a dédiée à sa famille. Et j'ai trouvé vraiment qu'il était très touchant dans ses propos.
Est-ce qu'il est épatant avec lui, Grégoire Perrou, c'est cette faculté de se surpasser dans les grands événements? Parce qu'aller chercher comme ça 3 médailles depuis 2008 à aujourd'hui, c'est quand même impressionnant.
Oui, et puis ce parcours en direction des Jeux Olympiques, il commence un peu au championnat d'Europe où il va décrocher la médaille avec son cheval Dynamix. Et tout le monde lui parle déjà de Paris. Et son cheval était très jeune, il y avait encore pas mal d'incertitudes autour de ce chemin jusqu'à Paris 2024, et il y allait petit à petit avec des attentes qui étaient vraiment énormes, Steve Guerda. Et on le sent au moment où il réalise qu'il est deuxième, il y a quand même une part de déception, et c'est vraiment une fois qu'il a là cette médaille autour du cou qu'il se dit « Ah mais c'est bon, ce que j'ai réussi, c'est déjà incroyable ». Et moi, ce que je trouve formidable, pour rebondir sur ce qu'a dit Alain, c'est le plaisir que Steve Guerda a quand il fait son sport, le plaisir qu'il a à parler de ses chevaux. C'est une relation toujours difficile à expliquer, mais c'est très beau, et ça fait partie de la beauté de l'équitation, de voir un cavalier comme Steve Guerda réussir et mettre presque la principale, comment dire, les raisons principales du succès sur son cheval plutôt que sur sa propre personne.
Oui, rappelez-vous d'ailleurs à Versailles, Dynamix avait très mal débuté, était tétanisé lors de l'épreuve par équipe, et c'est vrai que Steve Guerda a cette faculté, sait parler aux chevaux, et l'a rassuré, il a passé beaucoup de temps avec, ils sont allés se balader, et finalement le cheval, Steve Guerda, ont répondu présent le jour J, avec malheureusement peut-être une faute, faut-il le rappeler, sur l'avant-dernier obstacle du concours individuel.
Votre sportive des Jeux Olympiques, Grégoire Perrou, fait aussi du cheval, mais pas que, elle est aussi présente au sol, c'est évidemment Simone Biles, l'américaine, enfin je dis le sol, mais il n'y a pas que le sol, évidemment, à la gymnastique artistique.
Il y a le sol, il y en a des disciplines, et puis elle excelle dans toutes ces disciplines, Simone Biles, quel athlète. Je me demande souvent, personnellement, quel athlète, dans 10, 20, 30 ans, on va retenir, on va s'en souvenir avec des moments particuliers, et après réflexion, je me dis qu'une athlète du pedigree de Simone Biles, elle va rester dans l'histoire de la gymnastique, dans l'histoire des Jeux Olympiques, tant ce qu'elle accomplit est assez incroyable. Débarquer, on va remettre le contexte, aux Jeux Olympiques de Paris avec encore une fois une pression énorme, 3 ans après avoir échoué à aller chercher une médaille d'or à Tokyo suite à un surplus de pression, à des problèmes mentaux, avec des problèmes physiques également. Elle a réussi à rebondir et à débarquer à Paris, à décrocher une médaille d'or, une deuxième médaille d'or, une troisième médaille d'or et une médaille d'argent, parce que personne n'est parfait, même pas Madame la Reine Simone Biles. Moi, je trouve que c'est un parcours vraiment qui est très inspirant par son personnage, par ses prises de position, par son combat pour intégrer la santé mentale des athlètes dans le débat sportif et dans le débat sociétal d'une manière générale, et aussi pour ses performances sportives. Je veux dire, pas tous les athlètes ou toutes les athlètes ont le droit d'avoir six figures qui portent leur nom. Il y a six figures quand même dans le monde de la gymnastique qui s'appellent des Biles. Ça montre à quel point cet athlète a non seulement fait évoluer les performances gymnastiques, mais elle a fait évoluer son sport. Et il y a une beauté, il y a un sourire lorsqu'elle réalise ses performances au sol ou au saut de cheval ou sur la plupart des agrès qui restent impressionnants et qui marquent. Et c'est pour ça que j'ai voulu lui rendre hommage aujourd'hui en tant que sportive des Jeux Olympiques. Parce que Simone Biles, il y a les titres, mais ça va un peu plus loin que ça, avec tout le contexte donc qui fait qu'elle est arrivée en numéro 1 sur ma liste pour ces Jeux Olympiques.
Et celui qui est arrivé en numéro 1 sur votre liste, Grégoire Ogier, est une autre légende du sport qui lui a gagné tout ce qu'il était possible de gagner dans son sport. C'est bien sûr Novak Djokovic.
Exactement, champion olympique de tennis, il complète sa moisson de trophées, le Serbe, il a absolument tout gagné dorénavant sur la planète tennis. Et je l'ai choisi parce que voilà, il a traversé une année 2024 difficile, aucun succès dans les tournois du Grand Chelem. Il avait noté dans son agenda ces Jeux olympiques, cette médaille d'or qui manquait, ce titre olympique qui manquait encore à son palmarès. Et puis bien voilà, il a réussi à aller le chercher au prix de sacrés efforts. Parce qu'il faut se rappeler que à Roland-Garros, il quitte le tournoi blessé, on l'annonce forfait pour Wimbledon, même peut-être aussi pour les Jeux Olympiques. Finalement, il revient à Wimbledon, il arrive à aller jusqu'en finale du tournoi londonien où il est largement battu en finale par Alcaraz. Les deux hommes se retrouvent quelques semaines plus tard sur la terre battue parisienne et Novak Djokovic remporte cette finale au bout d'un combat épique, puisque finalement Djokovic aura besoin de deux tie-break dans cette partie pour battre Alcaraz, près de 3 heures de jeu. Et puis je me rappelle forcément cette image de Novak Djokovic à genoux sur la terre battue parisienne, en transe finalement, parce qu'il est en train de trembler, prenant certainement conscience de ce qu'il a réalisé. Et on sait aussi que pour lui, ça a toujours été très important de défendre les couleurs de la Serbie. Donc voilà, c'est pourquoi j'ai choisi d'en faire mon sportif des Jeux Olympiques de Paris.
À 37 ans quand même, il aura gagné tout ce qu'on peut gagner dans le tennis, quoi.
Exactement, on a souvent fait cette course entre Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. Il manquait un titre à Djokovic pour avoir vraiment rempli son armoire de trophées, pour avoir le palmarès le plus complet de l'histoire du tennis masculin. Voilà, c'est un avènement pour lui et c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué dans cette Olympiade.
Oui, j'imagine que ça vous a aussi marqué cet événement-là, Bernard Dalleman.
Oui, effectivement, j'étais dans le stade de Roland-Garros pour le tournoi, mais pour cette finale notamment, finale absolument exceptionnel, gros niveau de jeu, et à Novak Djokovic qui était en mission, on sentait, je vais pas faire le malin après, mais sentait que même si Alcaraz répondait parfaitement présent, que rien ne pouvait arriver à ce Djokovic là parce que il se battait sur chaque point, c'était le Djoko qui est imbattable parce que il renvoyait toutes les balles et sur les longs échanges, c'est lui qui gagne généralement, ça veut dire quand même beaucoup de choses. Et puis j'ai eu la chance ensuite de m'approcher de lui en zone mixte après le match. Il nous a longtemps parlé, je dis on parce que j'étais avec deux confrères français de radio française, et il nous a longtemps parlé en français, des réponses extrêmement longues. Il parle très bien français d'ailleurs, et espagnol aussi d'ailleurs. Il parle beaucoup de langues, Novak Djokovic. Et on voyait qu'il était, ouais, il était heureux, il était sûr, il avait tout accompli. On avait l'impression qu'il allait nous dire, voilà, j'arrête ma carrière. Là, mais il a trop d'orgueil évidemment et d'ambition pour ça. Mais c'était un homme qui était, quand on a tout gagné comme il, enfin, il avait presque tout gagné et qu'il arrive à ce point-là, c'est, je pensais, quelque chose d'immensément fort et ça se voyait dans ses yeux.
Vous avez choisi Bernard Dalleman comme sportif des Jeux Olympiques, un homme encore plus âgé que Novak Djokovic. C'est un Cubain, un lutteur cubain. 42 ans, Mijan Lopez.
Bah oui, évidemment, c'est le seul qu'on pouvait mettre encore au-dessus de Novak Djokovic. Pourquoi? Parce que Mijan Lopez Núñez, pour être tout à fait complet, qui avait 41 ans et lors des Jeux, qui en a 42 maintenant, a quand même gagné dans sa discipline 5 médailles d'or consécutives. Il y a aucun autre athlète dans l'histoire des Jeux Olympiques qui a réalisé cela. C'est donc un lutteur de la catégorie des moins de 130 kilos, lutte gréco-romaine. Et alors, il n'avait pas du tout, il n'a fait aucun combat entre les Jeux Olympiques de Tokyo 2021 et ceux de Paris. Il s'est préparé, il a même laissé un peu son coéquipier Oscar Pino aller chercher, grappiller une place pour Cuba, pour la compétition, pour ces Jeux Olympiques. Le pauvre Pino n'a pas pu participer, lui, à ces Jeux. Et puis, en finale, Miaïn López Núñez bat un Chilien, Yasmani Acosta Fernandez, mais en réalité un Cubain. Mais comme Miaïn López gagnait toujours tout, eh bien le pauvre Acosta Fernandez s'est exilé au Chili, il a obtenu la nationalité chilienne. Et c'est comme ça qu'il a pu se faire sa place dans le monde de la lutte. Mais ça n'a pas suffi, son talent, pour battre Miaïn Núñez, qui est un sacré personnage, un gros nounours, un visage assez carré, mais avec un sourire qui ferait fondre la banquise, même si on n'a pas beaucoup à Cuba de la banquise. 1m96 quand même. Voilà. Et puis, souvenez-vous quand même, parce que l'image avait été assez belle à l'issue du combat, pour annoncer que cette fois-ci c'était bel et bien terminé. Il allait au centre du tapis et il a enlevé ses chaussures et il les a posées. Il est parti sans ses chaussures pour montrer que voilà, pour lui c'était terminé. Voilà, sacré personnage. Il a gagné ses combats avec à l'expérience aussi, une très bonne gestion de ses matchs. Mais voilà, 5 médailles d'or consécutives.
Ouais. La première, c'était à Pékin en 2008.
Ouais, ouais. 8, 12, 16, 21, 24.
Et c'est avec Miaïn López que l'on clôt, Patrick, cette première partie de la rétro consacrée aux sportives et sportifs des JO.
Et l'on poursuit en musique. Ensuite, on découvrira avec vous, Stéphane, les événements des JO qui ont marqué la rubrique des sports.
T'es qu'un grain de poussière sur cette terre. Si on dézoomait le planisphère, je te tiendrai entre mes doigts. Je te tiendrai entre mes doigts. Je ne sais pas si l'histoire retiendra ton nom, ton profil, si tu écriras un livre ou un opéra. Un livre ou un opéra. Mais t'es tout pour moi. T'es tout pour moi. T'es tout pour moi. T'es tout pour moi.
tout pour moi. Clara Luciani, qui aurait bien aimé que les organisateurs des Jeux Olympiques de Paris l'appellent pour chanter durant l'événement. Ça n'a pas été le cas du coup. Elle est partie en Écosse pendant les Jeux, sur les terres de son mari, garder ses moutons. Revenons, dernier jeu de mots de l'année, nous aussi, à nos moutons, pour découvrir, Stéphane Trisconi, les événements qui ont marqué la rubrique des sports pendant ces Jeux de Paris.
Et il y a forcément un événement qui nous vient tout de suite en tête, c'est le premier, la cérémonie d'ouverture des Jeux, c'était le vendredi 26 juillet, et vous teniez à rendre hommage ce soir, Jérôme Jeannin, à l'homme qui a conçu, pensé, étudié cette cérémonie, le directeur artistique Thomas Joly.
Oui, c'est la personne qui a été chargée de mettre en scène cette formidable cérémonie d'ouverture. Il y a trois éléments qui sont marquants. Il y a déjà ce concept un peu fou de faire cette cérémonie décentralisée hors du stade sur la scène, qui était, alors on en a beaucoup parlé avant pour des questions de sécurité. Ça a bien marché finalement. Il y a le moment quand même qui était incroyable, Caroline l'a évoqué précédemment, le déluge sur Paris qui s'abat au début de la cérémonie d'ouverture, les spectateurs qui sont arrosés pendant des heures, et c'est vrai que c'était long, c'est plus de 3 heures de cérémonie, c'est très très long, et d'ailleurs à la fin c'était un peu dommage parce que les délégations arrivaient au Trocadéro sur le site d'arrivée, il y a beaucoup d'athlètes qui repartaient tout de suite évidemment pour éviter de prendre froid. Et puis il y avait l'esprit de cette cérémonie qui, alors ces cérémonies c'est souvent plan-plan, très politiquement correct. Et puis là, non, c'était quelque chose d'irrévérencieux, de politiquement incorrect par moment. Moi, ça m'a plu. Alors, je sais que ça n'a pas plu à tout le monde. Et d'ailleurs, ça a valu beaucoup de critiques à cet homme de théâtre qui est Thomas Joly. Ça lui a valu des menaces. Hein. Il a aussi lancé une action en justice pour cyberharcèlement. On l'a pas ménagé sur les réseaux sociaux. Donc, c'est quelqu'un qui a eu le courage de faire tout ça. Il faut dire que c'est quelqu'un qui aime les défis parce que c'est un metteur en scène de théâtre qui avait fait une pièce de 24 heures à Avignon, la mise en scène de Henri IV et de Richard III de William Shakespeare. Donc voilà, je pense que cette cérémonie avait besoin de quelqu'un comme ça. Chapeau à lui.
Et puis il n'a pas pris de cheveux blancs. Moi j'ai eu la chance de le rencontrer juste avant.
Oui, il est jeune, il a 42 ans je crois.
Oui, juste avant la cérémonie des Jeux Paralympiques, la cérémonie d'ouverture où j'ai pu le rencontrer et il était encore, vous parlez de ce cyberharcèlement, c'est vrai que c'était difficile, mais je crois qu'il était, toute l'équipe de Paris était encore dans le mood, si je peux dire, dans cette lancée des Jeux, et il y avait de nouveau de la passion. La cérémonie des Paralympiques, c'était un peu différent, c'était plus centralisé, c'était en extérieur aussi, mais on sentait encore toute cette magie qui était là quand on parlait avec lui notamment.
Et dans cet événement olympique qui était la cérémonie d'ouverture, vous avez choisi un autre événement, Patrick Delletreau, c'est le fameux cheval mécanique que l'on a vu flotter sur la scène.
Ouais, le sport, moi, enfin, vous le savez, je le dis depuis souvent, c'est de l'émotion, et les cérémonies d'ouverture des Jeux Olympiques, si on n'a pas au moins un moment d'émotion, c'est qu'elles sont tout simplement ratées. Alors, pardonnez-moi, je suis le vieux con, j'en ai vécu pas mal de ces cérémonies. Jusqu'ici, j'étais resté bloqué au 2008 tambour chinois lors de la cérémonie extraordinaire de Pékin en 2008. Mais là, vu sur ma petite TV, je sais plus où j'étais d'ailleurs, j'étais en vacances, j'étais pas au jeu. Et on commence à voir arriver ce cheval mécanique avec un cavalier et ça, voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Et c'était, encore une fois, moi je l'ai trouvé trop longue cette cérémonie quand même, mais là aussi il y a toute cette remontée, mais il y avait quelque chose d'absolument magique, ce cheval mécanique était splendide, et je pense que ça a mieux passé, comme souvent, à la télévision, parce qu'on le filmait de différentes manières, il y avait les lumières, et c'était un moment absolument magique de cette cérémonie d'ouverture, d'après moi. C'est l'image que je vais vraiment garder de cette cérémonie, c'était tout simplement beau. Voilà, et toute cette cérémonie qui est... Il y avait Albertville avant, voilà, c'est cette folie, cette magie qu'ont les Français parfois dans ce genre de cérémonie, qu'on n'a jamais vu ailleurs et qu'on ne reverra sans doute pas.
Juste un mot pour dire que c'est vrai que ça interroge sur les prochaines cérémonies, parce que là c'est clairement un spectacle qui a été fait pour la télévision. Alors il y a eu des chanceux qui étaient au bord de la scène.
C'est toujours pour la télévision.
Ouais, mais là je pense encore plus, même nous qui étions avec Caroline au Trocadéro, on a vu les 90% de la cérémonie sur des écrans géants. Donc il faudra voir par la suite. On dit que il faut pas oublier maintenant que la grande majorité des spectateurs sont des téléspectateurs.
Je pense qu'il pourrait y avoir des écrans, des masques de réalité augmentée qui pourraient être distribués aux spectateurs qui sont dans le stade. C'est possible aussi.
Mais je pense que ça se prêtait parce que Paris est une ville théâtre. Enfin, tout dans Paris, le long de la Seine, c'était vraiment fait pour ça. On a vu un petit peu des extraits de Los Angeles pendant la cérémonie de clôture. Ce sera autre chose. Mais il y aura du cinéma et je pense qu'il y aura beaucoup de musique. Il va y avoir beaucoup de showbiz.
On ne pourra pas refaire pareil.
Mais quand on a vu, franchement, les extraits de Los Angeles, je me réjouissais déjà, quoi. Donc, on va vite passer à autre chose, mais ça restera pour moi aussi, ce cheval mécanique, il restera dans ma mémoire, et la cavalière qui s'avance avec le drapeau, moi, ça m'a mis les larmes. Franchement, c'était un moment de poésie, vraiment très, très beau.
Bon, il y en a eu des moments de poésie, des moments de magie, des moments de grâce durant les 15 jours de ces Jeux Olympiques, lors de la cérémonie, évidemment, puis lors des compétitions. D'ailleurs, vous avez choisi un événement marquant, Caroline Raymond, c'est une médaille brésilienne en gymnastique.
Oui, c'est la médaille de Rebeca Andrade au sol en gymnastique artistique. Moi, j'avais envie vraiment de mettre en lumière une athlète qui est brillante, mais qui finalement est toujours restée un peu dans l'ombre de la superstar qu'est Simone Biles. Et c'est vrai que tout le monde voulait voir le retour de Simone Biles aux Jeux Olympiques. On voulait tous la voir gagner de l'or, faire une nouvelle razzia, parce qu'elle a vécu des Jeux à Tokyo et l'après-Tokyo a été tellement difficile pour elle. Et puis, on a oublié Rebeca Andrade, qui est aussi une gymnaste absolument extraordinaire, avec 6 médailles au JO, 9 médailles au championnat du monde. Et à Paris, ben voilà, elle est deuxième derrière Simone Biles au concours général, au saut. Et puis à ce moment, au sol, les deux sont des athlètes phénoménales sur le sol. Elles sont extrêmement belles à regarder. Et là, la Brésilienne, elle réussit un concours presque parfait. Enfin, il n'y a pas grand-chose à redire. Il y a plein de petits défauts dans l'exercice de Simone Biles. Et c'est Rebeca Andrade qui s'impose et qui prend la lumière. Et il y a ce moment qui reste aussi magique pour moi, c'est le podium. Quand Simone Biles et l'autre américaine, Jordan Childs, s'inclinent devant Rebeca Andrade au moment où elle monte sur le podium, c'était une façon de dire, bah voilà, coup de projecteur enfin sur cet athlète qui le mérite. Je l'ai trouvé très beau de la part de Simone Biles. Et puis il y a aussi quelque chose de très symbolique parce que c'est aussi la première fois qu'on a deux afro-américaines et une afro-brésilienne sur un podium dans un sport qui est hyper conservateur. Et puis on est peut-être un peu passé à côté de cet athlète qui a aussi une enfance compliquée comme Simone Biles, qui est née dans une famille pauvre de Sao Paulo. Il y a 8 enfants, elle est la seule fille. Elle a été éduquée par une maman solo qui a tout sacrifié pour que sa fille puisse faire de la gym. C'est 3 opération au genou pour des ligaments déchirés également. Donc il y a aussi cette résilience, un peu comme Simone Biles. Et puis au Brésil, c'est une superstar. C'est quelqu'un qui inspire les petites filles, les petites filles afro-brésiliennes aussi à faire de la gym. Donc voilà, c'est vrai que des fois, voilà, il y a la grande histoire, il y a ces figures marquantes, légendaires du sport. Et puis à côté, on a des athlètes dont on parle un petit peu moins.
Et elle fait rêver, vous savez combien elle a de gens qui la suivent sur Instagram.
Plus de 8 millions, je crois.
Ouais, 8 400 000. C'est pas mal comme destin, quand même.
Ouais, exactement. Je crois que c'est l'athlète la plus titrée des Jeux Olympiques pour le Brésil.
C'est à l'Arena de Bercy que se sont disputées les épreuves de gymnastique artistique. C'est un autre site de compétition que vous avez choisi de mettre en valeur dans cette rubrique événements des JO, Bernardin Lehmann, le site du beach volley au pied de la Tour Eiffel.
Ouais, exactement. J'ai mis ça comme mon événement des JO parce que d'abord j'ai été assez régulièrement. J'ai beaucoup fait le tennis en première semaine et ensuite j'étais beaucoup au beach volley. Pourquoi ? Parce qu'il y avait notamment plusieurs paires suisses et une médaille notamment chez les femmes avec Nina Brunner et Tania Huberly qui ont obtenu la médaille de bronze. Lieu exceptionnel, évidemment. Tout le monde est allé, je pense, une fois dans sa vie au Champ de Mars, ce grand champ là entre l'école militaire et la Tour Eiffel, et avec le Trocadéro de l'autre côté. C'est vrai que cet endroit en plus était fermé, il y avait que les gens qui avaient des billets pour la lutte ou le judo d'un côté et puis de l'autre pour le beach volley qui pouvait y entrer. Donc on avait l'impression d'être un peu privilégié de pouvoir entrer sur ce Champ de Mars où généralement il y a toujours beaucoup de monde, et là il y avait pas grand monde en dehors des stades. Le judo, il y a quand même beaucoup de monde avec notamment les exploits de Teddy Riner. Et puis voilà, c'est un endroit qui était magique, parce que d'abord le beach volley est un sport magnifique, vous aviez ce sable, effectivement la Tour Eiffel, le Trocadéro juste en face, et d'ailleurs pour bien marquer cela, il y avait un peintre que la Fédération internationale de beach volley avait mandaté, un peintre qui chaque jour faisait une peinture avec, alors chaque jour ça faisait des, j'allais voir un peu ce qu'il faisait, ça faisait des couleurs différentes selon s'il y avait eu un petit peu de pluie ou le soleil. Bref, c'est un endroit qui est déjà exceptionnel par les bâtiments qu'il a, mais en plus par les lumières que ce peintre lui donnait, ça m'est resté de manière assez forte. Voilà, alors après c'est vrai que les Jeux de Paris, on en a tous déjà évoqué ce soir et ça se fera certainement encore, voilà, en mémoire les lieux traversés. Je pensais au marathon également qui est passé à côté de tous ces magnifiques monuments parisiens, mais là c'est vrai que ce beach volleyball pour les participantes et participants à ce tournoi, ça va rester forcément, peu importe le résultat sportif, mais ça va rester dans leur esprit très longtemps.
Et la Suisse a fait une médaille quand même en beach volley.
Oui, ben, j'évoquais tout à l'heure, la médaille de Tania Eberli et de Nina Brunner. Ça n'a pas été facile pour les Suisses. Il y a une autre paire aussi, suisse qui aurait pu faire une médaille avec notamment Zoé Vergé-Després. Ça n'a pas fonctionné parce que voilà, il y a que trois médailles possibles. Mais Nina Brunner et Tania Eberli ont vraiment été brillantes. Nina Brunner, c'est une joueuse qui est exceptionnelle. C'est pas la plus grande, mais alors elle est d'une mobilité incroyable, elle a d'une intelligence, elle a un doigté qui est absolument splendide et une défense qui est folle. Il y a certaines balles, je me souviens une fois, elle a renvoyé le ballon du pied, ça a fait lever tout le stade. Et puis devant, Tania Eberli qui alors est excellente aussi, qui est grande, qui peut smasher. C'est un duo qui a vraiment fait rêver. C'est un duo qui aurait pu, presque dû, j'allais dire, aller en finale. Ça se passe à pas grand chose, mais voilà, une médaille de bronze, les deux femmes on était très très heureuses.
Votre événement des Jeux Olympiques, Grégoire Augier, c'est la deuxième médaille d'or de l'équipe de France en judo avec, évidemment, le personnage, le monstre, Teddy Riner.
Exactement, je l'ai choisi aussi pour tout le scénario de cette journée et même de la semaine de Teddy Riner. C'était un des sportifs les plus attendus, forcément. Déjà double médaillé d'or en individuel en France, après son petit échec à Tokyo, parce que voilà, il n'avait pas réussi à remporter la médaille d'or. Il était très attendu, il a d'abord remporté cette médaille en individuel et ensuite il faut repartir au combat, cette fois en équipe. Donc voilà, c'est un sport individuel, mais il y a également cette compétition par équipe. Et puis vraiment, il y a un scénario qui est assez fou parce que la France est menée dans cette finale par le Japon. Finalement, ce sont les coéquipiers de Teddy Riner qui ramènent la France à 3-0. Et ensuite, il y a un tirage au sort. Et je me rappelle, j'étais ici à Lausanne en permanence ce jour-là. Je regarde tout ça à la télévision et je me dis non, mais en fait, obligatoirement, ça va être Teddy Riner.
C'était écrit.
C'était écrit. L'histoire veut que ça soit Teddy Riner et le sort en décide ainsi. Teddy Riner est choisi donc pour aller faire ce combat final pour la médaille d'or. Teddy Riner qui va finalement remporter cet ultime combat après 6 minutes 26. Donc on va au-delà des 3 minutes. Ensuite, il y a des pénalités d'un côté et de l'autre. On est finalement à 2 pénalités de chaque côté. La prochaine erreur ou le prochain hippon, c'est victoire pour celui qui le réussit. Et c'est Teddy Riner. Et ça clôt voilà une magnifique semaine de compétition en judo de la plus belle des manières avec voilà l'épouvantail du judo mondial qui offre cette médaille d'or à son pays, dans une salle absolument survoltée, vraiment un moment qui m'a marqué dans cette Olympiade. I lost the best thing I ever owned, the greatest love that I've ever known. It was more than I ever could dream. From a butterfly to a stone, I got frozen to the bone. I thought we're one, we were bond, we were a team. To laugh at people who'd say they had enough, falling in and out of love. How much can a house is not a home, just a shell of a time that has gone. Facing ruins all alone, like a king that's been overthrown. I shall walk with my back towards the sun. I'm
How much can a heart break? À quel point un cœur peut-il se briser? Se demande le groupe suisse Pegasus qui avait été mandaté pour composer la chanson officielle destinée à représenter la Suisse aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. Elle s'intitulait Skyline, mais ce soir ce sont les Jeux de Paris qui nous intéressent, Stéphane Trisconi.
Et plus précisément, les événements qui ont marqué la rubrique des sports durant ces Jeux. Pour vous, Patrick, c'était le cheval mécanique de la cérémonie d'ouverture. Pour Jérôme, c'était le courage de Thomas Joly pour la mise en scène de cette cérémonie. Pour Caroline, la médaille de la brésilienne Rebecca Andrade en gymnastique artistique. Pour Grégoire Ogier, celle du judoka français Teddy Riner dans l'épreuve par équipe. Pour Bernardin, le tournoi de beach volley sur le champ de Mars. Il nous reste à découvrir vos événements, Alain Thévaux et Grégoire Perroux. Vous avez choisi, Grégoire, le record du monde d'Armand Duplantis au saut à la perche.
Alors, il est marquant, bien sûr, parce que c'est un record du monde, parce que c'était dans un stade de France en ébullition, parce que je travaillais ce soir-là et que je devais m'occuper de retrouver les interviews d'après-compétition d'Armand Mondo Duplantis. C'était un lundi soir, il y a eu quelque chose de spécial qui s'est passé, parce que le concours à la perche, c'est toujours un peu particulier dans le déroulement. C'est pas comme un 100 mètres où on a un coup de pistolet initial, ça court pendant 10 secondes et à la fin on a un vainqueur. Le concours de la perche, ça va progressivement. Il y a des concurrents qui sont éliminés au fur et à mesure. Et depuis quelques années, depuis que Armand Duplantis est sur le circuit, ben souvent c'est assez vite réglé. On sait qui c'est qui va gagner, c'est Armand Duplantis. Mais ce soir-là, toutes les compétitions étaient terminées. Le stade était encore plein parce qu'il restait un athlète qui était déjà assuré de la médaille d'or, Armand Duplantis, qui voulait juste encore tenter de battre son fameux record du monde qu'il a tendance à battre centimètre par centimètre pour garder un peu de suspense. Et
c'est aussi plus intéressant financièrement.
C'est complètement plus intéressant financièrement, mais ça rajoute, ça crée plus de moments particuliers parce que les gens qui sont dans un stade, ils se souviennent du moment où Armand Duplantis a battu le record du monde. Donc s'il le bat, il doit en être à une dizaine de en tout cas minimum de fois, bien ça a marqué encore plus de monde. Et ce soir-là, tout le monde n'attendait que ça. Il a attendu sa troisième et dernière tentative pour battre ce record du monde à 6,25 m. Et à ce moment-là, le silence était tellement impressionnant. Je regardais ça à la télévision, on n'entendait pas un bruit. Et au moment où la barre tremblote et finalement reste en place, Armand Duplantis bat le record du monde. Et là, c'est une explosion de joie, mais c'est comparable à un but en finale d'une Coupe du Monde, tellement c'était incroyable. Et de voir la joie du Suédois qui, bien sûr, il était champion olympique, bien sûr, il avait cette médaille d'or qui allait donc lui revenir, mais ça rajoutait quelque chose d'encore plus grand à sa performance. Et il était tellement heureux de réussir ce record du monde qui m'a marqué durant ces Jeux olympiques. Et après, il y a tous les à côté. Vu que toutes les compétitions étaient terminées, il a pu faire presque 10 fois le tour du stade pour faire des photos, saluer tout le monde, signer des autographes. Après, il y a eu la série d'interviews. Toutes les télévisions attendaient de recevoir Armand Duplantis pour parfois 30 secondes, 1 minute, 1 minute 30 pour les chanceux. Et ça a duré presque une heure. Il devait passer auprès des 50 télévisions qui avaient les droits pour les Jeux olympiques pour expliquer exactement la même chose. Donc, ce que ça lui faisait de battre ce record du monde, d'avoir la médaille d'or, etc. Et il arrivait au micro de Brian Wacker, qui était au Stade de France pour l'athlétisme. Il arrivait, ça devait être sa 50e interview, mais encore une fois, il a pris le temps. Il a fait des réponses de plus de 30 secondes, sensées. Il a mis de l'émotion et ça rajoute encore quelque chose. En plus, quand on a ce métier de journaliste sportif, d'avoir ce genre d'athlète qui, en plus de réaliser une performance sportive incroyable, arrive à rajouter ces petites choses qui vont faire rentrer encore plus à Armand Duplantis dans sa légende.
Et moi, ce que je trouve dingue, Alain Thévaux, avec lui, c'est ce qu'a décrit Grégoire, c'est qu'il est seul dans le stade. Il y a 80 000 personnes, il est seul face à 80 000 personnes.
Et il va chercher le record.
Et surtout face à une barre quand même, mais c'est vrai, donc il y a cette concentration. Par contre, il donne beaucoup et on peut le voir peut-être à une échelle inférieure, mais aussi à Athletissima lorsqu'il vient ici au meeting. Aujourd'hui, avant c'était Usain Bolt, aujourd'hui c'est lui la star, c'est lui que les gens attendent, que les gens espèrent avoir un selfie, une signature. Et c'est vrai, il procure du bonheur, il est simple, c'est vraiment une légende et chapeau à lui pour ses exploits.
Et pour un sport comme le saut à la perche qui... tout de même a parfois été mis un peu en retrait, n'était pas le moment phare d'une compétition. Aujourd'hui, les gens viennent voir le concours de saut à la perche parce qu'il y a des athlètes incroyables, parce qu'il y a surtout Mondo Duplantis.
Mais c'est souvent quand même cyclique, hein. Il y a eu Bubka à l'époque, Lavillenie, maintenant Duplantis. Donc ça prend quand même des légendes, mais surtout des athlètes qui se créent, qui deviennent la légende et qui donnent au public, et le public le rend bien en fait finalement cet amour, cette passion.
Et aux Jeux Olympiques, il y a un événement qui marche tous les 4 ans, c'est la finale de basket. C'est d'ailleurs l'événement que vous avez choisi de mettre en lumière à l'Intevo avec, inévitablement, le titre pour la Dream Team.
Exactement, il était presque attendu ce titre, même si la France, c'était pour la deuxième fois de suite la même affiche en finale, donc États-Unis-France, la France chez elle, on se disait que peut-être elle pourrait basculer, ça faillit quand même, parce que la France a un peu malmené les États-Unis, mais vraiment lors du dernier quart, les États-Unis ont forcé la décision, s'imposent finalement de 11 points, 98-87, le 17e titre olympique de l'équipe américaine masculine. Et c'est vrai qu'il y avait aussi les principaux artisans, LeBron James, Stephen Curry. C'était une première pour Curry. Il y avait eu aussi dans l'équipe justement Kevin Durant qui était déjà champion olympique, LeBron James, 3 médailles d'or, 4 pour Kevin Durant et désormais Stephen Curry pour un premier titre. Et la France qui a réussi des shoots ouverts dans les 5 premières minutes, on avait vu les États-Unis qui avaient placé dans leur 5 de base les meilleurs. Finalement, on a modifié un peu les plans tactiques et surtout quand il y a eu le money time dans les ultimes minutes, et c'est là Steph Curry en toute fin de match, avec son adresse, avec 4 paniers primés, il fait la différence. Et c'était fou. Alors, il y avait, pour moi, j'ai presque été plus impressionné par la France en demi-finale, aussi les États-Unis, parce qu'en finale, c'était beaucoup de people. Il y avait finalement moins ou peu de place, moins de place pour les vrais amateurs de basket, les supporters en l'occurrence des Bleus de l'équipe de France. Mais j'ai quand même été marqué par cet événement. Et puis, Stéphane, j'ai aussi envie de tirer un grand coup de chapeau à Vincent Collet qui a dirigé cette équipe de France pendant 15 ans. Il est quand même 2 fois vice-champion olympique, il a été champion d'Europe, 8 médailles au total. Et c'est un peu comme Didier Deschamps, il est décrié, et on ne l'a pas reconduit, mais chapeau à lui quand même pour ce qu'il a apporté au basket français et à l'équipe nationale de France.
Et puis on précisera que chez les dames, c'était la même affiche, hein, États-Unis-France, ça s'est joué à un point, 67-66, là aussi c'était complètement fou.
Exactement, c'était complètement fou et c'était vraiment une belle publicité pour le basket. Il y a déjà au début les basketteurs américains de la NBA, mais aussi les autres, parce qu'aujourd'hui les Européens se distinguent pour les prix, les récompenses, sont quasiment les vedettes de chaque équipe, donc ça s'est vraiment équilibré. Et je veux dire, à Lille, les records d'affluence ont été battus aux Jeux Olympiques pour le basket. Et c'est vrai qu'au début, il y avait une réticence, la FIBA, même les dirigeants de la NBA, quoique les Américains logeaient quand même à Paris, s'entraînaient à Paris et effectuaient uniquement les trajets pour aller au match à Lille. C'est quand même plus glamour de loger, de prendre ses quartiers à Paris. Mais voilà, ça a été une superbe publicité pour le basket. Et finalement, Lille, la proximité de la Belgique, ça a permis aux gens finalement d'accéder, d'aller voir des matchs. Et j'ai aussi l'occasion de suivre le basket 3-3 avec l'arbitre suisse Michael Hedes, qui a mis un terme à sa carrière internationale olympique. Et là aussi, c'était complètement fou. Enfin, pour le basketball, ça a été effectivement une superbe publicité. visité. Et la finale masculine, c'est comme le 100 mètres, c'est vraiment, je dirais, l'une, en tout cas l'épreuve phare des Jeux Olympiques d'été.
Et on va en parler du 100 mètres dans l'heure prochaine. Ce sera l'une des images fortes des JO. On découvrira toutes les images ainsi que les plus belles médailles des JO. Des choix forcément subjectifs, c'est ce qu'on aime avec cette rétro.
Oui, subjectif parfois, mais très objectif dans l'analyse. Les Jeux Olympiques donc, la rétro dans la prochaine heure, plus tard à partir de 21h, on reviendra sur l'Euro de football, qui s'était disputé en Allemagne. Excellente soirée sur la RTS première, il est 20h.